Et 1, et 2, et 3, et 4. Je ne sais plus combien faut compter. Officiellement, il n'y a que deux sources à Évian. Et pourtant, je ne suis pas n'importe où. Et je ne suis pas avec n'importe qui. Alors, encore un président. Bonjour, président. C'est comme ça qu'on vous appelle, président?
Président, c'est un peu pompeux. Enfin, dire simplement Jean-Michel.
Bonjour, Jean-Michel. Nous sommes à Évian, en Haute-Savoie. Alors, Évian, c'est... Ici, on est dans une maison un peu emblématique parce qu'il y a une expo sur la ville d'Évian.
Oui, on a fait une exposition sur l'histoire d'Évian, parce que Évian, petite ville, finalement peu connue, on connaît plus la bouteille d'Évian que Évian en tant que telle, eh bien, une histoire extrêmement riche, qui ne remonte pas d'ailleurs seulement aux sources, puisque les sources, elles ont vraiment démarré à la fin du XVIIIe siècle, mais qui remonte déjà au Moyen-Âge, etc., etc. Enfin, on ne sait pas exactement l'origine du mot. On a parfois l'idée que ça viendrait peut-être du Celte, ou qui nous ramènerait peut-être justement à l'idée de l'eau, les vua, enfin, ce genre de choses. Peut-être quelque chose qui renverrait à un patronyme, les Vian, donc la famille Vian, qui aurait été peut-être des sortes d'aubergistes à la fin du Moyen-Âge et qui aurait ici accueilli des pèlerins qui allaient à Saint-Maurice d'Agone, qui était un très grand centre de pèlerinage et qui d'ailleurs existe toujours, puisqu'il a fêté ses 1500 ans il y a, sauf erreur, un an. Ou un an et demi. Et Évian, donc, petit à petit, s'est développé au Moyen-Âge, grâce bien sûr à la famille de Savoie, puisqu'on ne nous trouvions pas en France, hein, puisqu'on a intégré la France en 1860 seulement, bien qu'il y ait eu une petite parenthèse révolutionnaire entre 1792 pardon, à 1815. Mais nous étions donc en Savoie, et c'est vrai que les comtes, puis les ducs de Savoie, ont beaucoup apprécié la région, en ont fait à la fois une ville un peu forte avec des militaires, mais aussi des lieux de résidence. Donc on avait déjà, quand on consulte, il y a un très très beau livre qui est conservé aux archives à Annecy, qui s'appelle le Théâtrum Sabaudier, qui est en fait une sorte de catalogue de tous les biens de la famille de Savoie, de toutes les villes des États de Savoie. Et on voit qu'Évian était déjà extrêmement florissant donc à la fin du XVIIe siècle, et que c'était un lieu apprécié, comme on disait à l'époque, de gens de qualité qui venaient y séjourner durant la belle saison, parce qu'on avait effectivement ici, sans doute encore déjà, une très très belle vue sur le Léman, etc., etc. Alors Évian, ensuite, bien sûr, s'est fait connaître aussi parce qu'on venait prendre les eaux, non pas à Évian, la ville n'était pas encore thermale, mais juste à côté, dans une petite commune qui s'appelle Publié, le lieu dit s'appelle en fait vraiment Amphion. Et à Amphion, on avait une eau ferrugineuse, une eau en fait qui était bonne pour les anémies, pour le foie, etc. Et la cour donc de Savoie-Sardaigne venait prendre les eaux au début du XVIIIe siècle. Et c'est là qu'on voit apparaître certaines personnalités, comme par exemple Madame de Varence, la marraine de Jean-Jacques Rousseau, qui était aussi sa maîtresse. Et tout un beau monde qui venait donc ici, à la fois se soigner et passer du bon temps. Et en fait, l'histoire d'Évian, effectivement, démarre, pour ce qui concerne donc l'eau minérale, les sources, à partir d'à peu près 1789-90. On est déjà en période révolutionnaire en France, et c'est un gentilhomme auvergnat, le comte de Lézère, Jean-Charles de Lézère, qui se réfugie en Savoie pour fuir les révolutionnaires, et qui vient prendre donc les eaux à Amphion, qui loge chez un monsieur Cachat à Évian, et qui, à un moment donné, dans le jardin de ce monsieur Cachat, va découvrir une source. Enfin, il y avait une fontaine en fait qui existait, et il va prendre cette eau, il va se laver les mains, et puis il va la goûter, il va la trouver, selon ses dires, très agréable et très passante. Alors on disait à l'époque que l'eau d'Évian était un peu savonneuse, parce qu'elle était très douce, elle avait une sorte de rondeur comme ça. Et en la consommant, en fait, il se rend compte que lui qui souffrait de calculs rénaux, qui à l'époque on appelait ça la maladie de la gravelle, eh bien, très rapidement, il allait évacuer, il allait se libérer de ses calculs. Et la chose s'est dite autour, dans l'entourage de cet aristocrate. À un moment donné, en 92, quand les révolutionnaires arrivent à Évian, les Français... Jean-Charles de Lézère traverse le lac, il va s'installer à Lausanne, juste en face, et il demande à Gabriel Cachat, son ancien donc logeur, de lui envoyer des jarres de bouteilles pour continuer sa cure. Alors, chose intéressante, c'est qu'il va se rendre compte qu'au terme du voyage, l'eau d'Évian a une énergie un peu amoindrie. Et ça, il faut le savoir. Il faut savoir que l'eau des viands, en fait, a deux vies. En fait, à la source, elle est extrêmement puissante. Elle a véritablement une vertu thérapeutique. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas la donner à un nourrisson. Parce que si vous la donnez à un nourrisson dans son biberon, le pauvre va se vider en quelques jours. Donc, elle est très, très, très intéressante pour suivre une cure. Mais au bout de 48 heures, on va dire 72 heures de conditionnement dans une bouteille, elle perd cette énergie et elle devient une eau de table tout à fait agréable qu'on peut consommer à l'envi, en fait, sans aucun problème, puisqu'elle a en fait une très faible teneur en sels minéraux. Voilà.
Attendez, là, vous me parlez des viands, mais si je me rappelle bien, je ne sais combien de sources il y a. Il y en a une derrière la maison, justement, ici. Mais là, on parle des viands cachas, parce qu'on s'y perd là-dedans.
Alors oui, on parle d'Evian Cacha, qui reste d'ailleurs le nom emblématique de la Société des Eaux Minérales, puisque quand vous demandez à une personne qui travaille aux eaux minérales d'Evian, on dit encore aujourd'hui on travaille à la Cacha. C'était la source Cacha, l'entreprise Cacha. Donc ça, c'est effectivement la source d'origine, mais il est vrai que Evian étant, comme d'ailleurs toute la région, irrigué abondamment par toutes sortes de sources, eh bien, on a eu d'autres émergences, d'autres sources qui ont été découvertes. Alors, la source Cacha, bien sûr. Après, il y a eu au cours du 19e siècle la ville d'Evian qui n'exploitait pas la source, puisque la source était en fait une source privée qui était exploitée entre autres par une société ensuite, après Gabriel Cacha, une société genevoise qui l'a exploitée jusqu'à peu près en 1892. Eh bien, la ville d'Evian se disait quand même, ils se font pas mal d'affaires, nous on pourrait aussi peut-être développer quelque chose. Donc ils avaient eux-mêmes découvert de l'eau et cette eau avait apparemment effectivement les mêmes vertus. Alors qu'est-ce qui vraiment distingue l'eau minérale d'Evian d'autres sources? C'est tout d'abord tout un parcours très particulier au travers de la couche géologique, au travers des Alpes, qui fait que cette eau, qui à l'origine bien sûr est de l'eau de pluie, en fait va traverser le plateau de Gaveau, qui se trouve au-dessus d'Evian, 35 km², qui va être absorbé, qui va traverser l'ancienne moraine constituée par les glaciers, donc à la fin donc de l'ère glaciaire, et puis à partir d'un parcours d'à peu près, on estime à peu près 18 ans, va ressurgir en présentant certains effectivement sels minéraux, pas mal de bicarbonate, du magnésium, enfin je vous fais l'économie de la formule magique. Enfin, c'est cette teneur très stable de sels minéraux qui va donc lui conférer ses caractéristiques. Mais qu'elle s'appelle Cacha, qu'elle s'appelle Châtelet, qu'elle s'appelle Graziella ou autre, effectivement, selon l'émergence, c'est toujours la même qualité d'eau. Selon l'émergence, effectivement, parce que en fonction de la position géologique, elle n'aura pas forcément ses vertus. C'est pour ça que, par exemple, que l'eau de Thonon, qui est une excellente eau minérale, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amitié pour Thonon, quoi qu'on en dise, je ne crois pas à la frontière de la Drance. Beaucoup de gens mettent ça en avant. Donc l'eau de Thonon qu'on peut consommer aussi à Paris, qui est commercialisée, eh bien, n'a, en tout cas à la source, à l'émergence, n'a pas ces mêmes vertus parce qu'elle n'est pas située sur le même, emplacement géologique qu'Evian. Voilà, tout simplement. Alors ces sources, en fait, il y en a eu beaucoup. Et malheureusement, selon leur emplacement, certaines avaient obtenu de l'Académie de médecine à la fin du 19e siècle une reconnaissance comme étant de l'eau d'Evian. Vous aviez, elle prenait, on le disait tout à l'heure, toute cette appellation Evian qui était prestigieuse. Alors Evian Cacha, Evian Châtelet, Evian Graziella, etc., etc. Mais il est vrai que certaines, malheureusement, se sont taries, d'autres n'avaient peut-être pas forcément toujours ces vertus. Donc il a fallu mettre bon ordre dans tout cela, on va dire en gros, autour de 1925. Et c'est finalement donc la société Cacha principale, qui était déjà la Société des Eaux Minérales, qui a recentré l'ensemble, qui a capté toutes les sources possibles pour aujourd'hui exploiter l'eau qu'on connaît et qui est en plus l'eau minérale la plus diffusée dans le monde, puisqu'on pense que le nombre de cols, donc de production annuelle, oscille entre aujourd'hui 1,5 milliard, peut-être qu'on montera peut-être jusqu'à 2 milliards d'ici un ou deux ans, pas de litres, mais effectivement, en fonction du conditionnement, on aura vraiment une production complètement vertigineuse. Si vous allez voir les usines d'Amphion, ça fonctionne jour et nuit, tout est robotisé et l'eau d'Evian se diffuse en permanence. Voilà.
Nous sommes ici, alors on dit comment, le domaine du Châtelet, le château du Châtelet, Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une source derrière. Ça, on le sait. Mais alors, établissement thermal. Ah oui, alors, au fait, ça veut dire quoi, thermal? Bon, alors, où est-ce qu'on est déjà et quel est ce bâtiment?
Alors, on se trouve ici dans une villa. En fait, à l'origine, c'était une très belle demeure. Enfin, c'est encore une très belle demeure de l'époque 1900. Vous la compariez un peu à la villa des Frères Lumière, et c'est vrai qu'elle lui ressemble.
Non, mais attendez, laquelle? Celle d'Évian, celle de Lyon? Parce que là, on est perdu, là, maintenant.
Ah, ça dépend aussi, hein, parce que le père Lumière avait la maladie de la pierre, mais ce n'était pas les calculs rénaux, c'était la volonté de construire un peu partout. D'ailleurs, il a fallu un petit peu le calmer. Non, alors c'est vrai qu'on est dans une villa qui est tout à fait représentative de la belle époque évianaise, qui coïncide en grande partie avec la belle époque tout court, hein, donc les années 1900. Et cette villa donc, a été construite au départ comme une résidence secondaire par un grand bourgeois qui était un avocat et qui venait ici avec sa famille. Et puis, à peu près 10 ans après sa construction, on estime, elle a été revendue à une société qui s'était créée tout récemment, autour de 1906-1907, en grande partie avec des capitaux lyonnais, et entre autres les frères Lavirotte, dont Jules était très connu, puisque c'est un architecte qui a fait carrière à Paris et qui est connu pour pas mal de bâtiments, d'immeubles de rapport qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Ben, Jules Lavirotte, donc, avec son frère en particulier, a développé cette entreprise qui, autour de cette villa, en fait, a effectivement constitué tout un domaine qu'on peut désigner comme une sorte de resort avant la lettre, un complexe hôtelier et thermal, parce qu'effectivement, on avait ici une émergence d'une source qu'on a appelée à la source du Châtelet, parce que bon, la maison dans laquelle on se trouve aujourd'hui possède une petite tour. C'est vrai qu'elle a un petit côté un peu castel comme ça, donc ils l'ont appelé Châtelet, sans doute c'est eux qui lui ont donné ce nom. Et à partir de là, ils en ont fait l'emblème de toute une entreprise. Alors, tout à fait impressionnant, parce qu'il y avait 1,5 hectare de terrain avec un établissement thermal, de l'embouteillage, un grand hôtel construit par la Virotte, grand hôtel qui demeure aujourd'hui, mais qui était transformé dans les années 70 en une copropriété, qui... On va peut-être en parler, mais enfin, après le scandale des eaux du Châtelet, parce que malheureusement, les eaux du Châtelet n'ont pas pu perdurer par manque sans doute de débit, par manque de ressources, pour ne pas jouer sur les mots. Et malheureusement, on a découvert qu'ils avaient été pompés de l'eau au lac, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, ils ont dû interrompre leur activité à peu près en 1926. Donc, l'entreprise a duré encore une grosse quinzaine d'années. Et l'hôtel s'est rebaptisé Hôtel du Parc. Et c'est lui qui donc a accueilli le 18 mars 1962, en fait, les délégations françaises et algériennes qui ont signé la fin de la guerre d'Algérie et les accords d'Évian. Voilà. Donc, en fait, on se trouve dans un lieu qui a quand même une assez grande portée historique, à la fois pour Évian et je dirais même pour l'histoire de la France. Enfin, en tout cas, pour Évian, elle est très intéressante à un double titre, parce que d'un point de vue architectural, cette villa... Ben, elle représente vraiment, oui, tout l'art de ville de la belle époque. Quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez admirer les parquets, les cheminées, la belle montée d'escalier, etc. Et puis en même temps, elle représente aussi justement toute cette grande épopée de l'exploitation de l'eau minérale, avec cette volonté justement de pouvoir accueillir des curistes, de pouvoir également d'ailleurs exporter l'eau, puisque Évian-Châtelet, comme Évian-Cachat à l'époque, avait... ces petites boutiques à Paris ou à Nice ou ailleurs encore. À Cachat, lui, ils exportaient en tout cas dans tout le bassin méditerranéen, en Angleterre. Ils étaient un des premiers à avoir vraiment exporté l'eau minérale. Et donc, on a voilà, ici un peu un résumé de tout ça. Alors aujourd'hui, cette villa, bien sûr, elle a été rachetée au cours du XXe siècle par différents privés. Elle est aujourd'hui la propriété d'un couple de mécènes qui sont suisses, et qui ont eu la grande générosité de la mettre à disposition d'une association que nous avons créée il n'y a même pas un an. C'était en mars donc, de cette année, dont je suis président. Et cette association, en fait, a pour but d'animer ce lieu, qui est tout à fait exceptionnel, l'animer, en fait, pour en faire un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, je dirais, pour tous les amoureux du patrimoine évianais et lémanique. On l'a appelé, en fait, Cercle culturel lémanique. Alors, cercle... pas pour dire que c'est un cercle fermé, mais simplement pour, un peu dans l'esprit des clubs, hein, dire qu'on a un lieu ici, effectivement, de rencontre, un lieu où on fait en sorte que les gens soient à l'aise. C'est-à-dire qu'ils viennent dans cette villa, ils peuvent s'installer, ils ont à leur disposition, il y a une machine à café, donc on peut leur servir un café, un thé. Ils ont le Wi-Fi, ils ont plein de livres à bouquiner, ils peuvent discuter. En soirée, on fait des rencontres donc, de toutes sortes, des conférences, des ateliers philo, des concerts, des lectures, etc., etc. Donc cette villa, elle est faite pour vivre, c'est une maison. Et donc, voilà.
J'ai une question insolite à vous poser. Est-ce que vous êtes prêt ?
Ah ben, c'est pas insolite que s'appelle votre, votre émission.
Quelle est votre nationalité ?
Alors, c'est une nationalité qui n'est pas encore vraiment inscrite sur les listes. C'est une nationalité lémanique.
Justement, donc, français et suisse, on revient sur cette notion de lémanique. Parce que, bon, en Alsace, on sait qu'ils sont en train de créer la communauté européenne d'Alsace. Puis là, bah, en Savoie ou en Haute-Savoie, on se demande, vous êtes plus proche de la Suisse, il ne faut même pas 35 minutes pour traverser pour aller à Lausanne, on est à 20 km de Saint-Gingolf, qui est la frontière suisse. Bon, alors vous êtes en France, vous êtes où, vous ? Vous êtes lémanique.
Bah, je pense que, enfin, pour les gens extérieurs, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le voir avec des amis qui venaient de plus loin, je ne sais pas, d'Amérique du Sud et autres, on ne sait pas toujours bien si Évian est en Suisse ou pas. D'ailleurs, on dit souvent que cette partie de la Haute-Savoie est très très proche quand même de la Suisse. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de frontaliers, beaucoup de gens qui vont travailler en Suisse. Le fait aussi que Évian soit une ville très, on va dire, très propérette, très très, avec quand même un, comment dire, un aspect, on va dire, assez assez riche, hein, il est vrai, rappelle donc bien sûr ce petit pays qui lui aussi est très prospère. Non, au-delà des clichés, je dirais que effectivement, pour moi, l'intérêt, c'est de montrer que finalement, on a affaire à deux rives. Alors, deux rives qui ont des histoires, bien sûr, différentes, même si à un moment donné, c'était une même rive savoyarde, puisque les Savoyards ont été là jusqu'au XVIe siècle, au moment où les Bernois ont envahi, en fait, le pays de Vaud, qui était encore catholique et qui est devenu ensuite protestant. Ensuite, bon, il y a eu aussi, bien sûr, la Rome protestante qui était Genève. Mais on a effectivement quand même des bâtiments communs. Si vous voyez justement tous les grands châteaux médiévaux du pourtour de Léman sont des châteaux savoyards à l'origine. Et puis ensuite, on a bien sûr des cultures différentes, alors marquées aussi par sans doute justement ces aspects religieux qui ont débouché sur d'autres aspects culturels. Le fait aussi bien sûr que la Suisse n'a pas connu la guerre comme la France l'a connue, etc., etc. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, il y a encore quelques années, là, j'ai lu un roman passionnant qui s'appelait Jean du Lac, qui montrait que précisément, on avait en face des pêcheurs suisses dans la plus parfaite illégalité, qui aidait des résistants français, etc. Donc il y a eu des passages, sans parler bien sûr des réfugiés juifs qui pouvaient passer en Suisse par le lac ou par la montagne, etc., etc. Donc on est sur une zone, le lac c'est pas une frontière, c'est précisément une zone de partage, d'échange. Je parlais aussi du fait qu'aujourd'hui, bien sûr, dans cette logique européenne, on reconfigure en quelque sorte les régions. Et puis c'est vrai que nous, on se sent quand même aussi assez proche de, bah, à la fois du Valais, de la vallée d'Aoste, etc., etc. On est dans une région qui est bien sûr celle des Alpes. Il y a aussi le côté, pour moi, j'y suis assez sensible, même si parfois le mot prête à confusion et il faut aussi le définir. Mais on fait quelque chose de l'ordre de l'Europe centrale, de la Mitteleuropa, hein, toute cette vieille histoire qui fait qu'on est quand même aux confluences de beaucoup de cultures linguistiques, avec quand même aussi des cultures locales qui se... On parlait tout à l'heure de l'arpitan, hein, du parler des dialectes locaux. On a beaucoup de similitudes entre toutes ces régions. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est à la fois un peu comme l'Europe, à la fois, comme on dit, c'est la devise européenne, c'est uni dans la diversité, hein, si je me trompe, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc on a cet aspect-là. Et pour moi, personnellement, ça me fascine vraiment parce que, si vous voulez, c'est précisément l'antithèse de l'identité. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui est une manière de se définir en quelque sorte en voulant exclure les autres. Alors que pour moi, ma conception du patrimoine et ma conception de la culture, elle est proprement inclusive, avec bien sûr tous les problèmes que ça peut poser, parce qu'effectivement, quand on parle justement en France des problèmes d'assimilation, d'intégration, etc., etc., il faut aussi savoir de quoi on parle et ce que ça signifie, et quel type de méthode on peut mettre en place pour que ça se produise. Donc tout ça, bien sûr, ça reste une question très largement philosophique, mais comme je suis philosophe de formation, je dois dire que c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà.
Justement, nous sommes au 3e millénaire, nous sommes au 21e siècle, et qu'est-ce que vous faites s'il y a 4-5 ans, vous lancez un festival qui s'appelle Belle Époque. Attendez, c'est fini cette époque-là, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est la place à tout ce qui est Internet, au smartphone. Qu'est-ce qui vous arrive là, comme ça, Belle Époque.
Ben, Vous savez qu'il y a un film de Nicolas Bedos qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La Belle Époque.
Qui a été hors compétition à Cannes et sur lequel, durant le Festival Lumière, Nicolas Bedos et Doriati ont fait une entrée fabuleusement extraordinaire. Exact. Oui, mais enfin quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous habillez en tenue
Alors, c'est votre question est très, très intéressante parce que...
Comme toutes mes questions, je vous rassure, il n'y a pas de problème.
Absolument, oui. Non, elle est très intéressante parce que ce n'est pas du tout une approche nostalgique. Si vous voulez, moi, mon rapport au passé, il est bien sûr de l'ordre du souvenir, mais comme le montrent justement des écrivains comme Marcel Proust ou bien des philosophes comme Henri Bergson, la mémoire, elle est créatrice. La mémoire, elle est plastique, elle se transforme, etc. Et donc, du coup, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans cette... Alors, il y a plusieurs choses. La Belle Époque, déjà, bon, on estime que c'est une période très courte. En général, on pense que c'est... Enfin, tout dépend des points de vue. Hein. Bien sûr que c'est le point de vue français, parce que le point de vue anglais ou allemand, ça sera différent. On va dire que c'est 1900, l'exposition universelle de 1900, parce que là, on est sorti de l'affaire Dreyfus, on a sorti de tous ces grands conflits politiques, sociaux. La France est stabilisée, la République semble prospère. Malheureusement, pour pas très longtemps, puisque 14, on va avoir la guerre. Bon. Donc, c'est une période très courte qui semble... d'une inventivité, mais phénoménale. Parce qu'on arrive dans cette période, justement, à des avancées technologiques. L'arrivée de l'aviation, l'arrivée de la voiture, l'arrivée du téléphone, l'arrivée de l'électricité, etc. Et j'en passe, et j'en passe. Artistique. Là, on peut les compter. Là, et on, bien sûr, quand on pense à la Belle Époque, on pense beaucoup, beaucoup à l'art nouveau, etc. Mais c'est en même temps le cubisme. C'est en même temps déjà presque l'expressionnisme. Enfin, on a toutes sortes de choses qui se mettent en place, qui sont d'une richesse absolument inouïe. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette période, c'est ce côté laboratoire. Laboratoire qui était capable d'engendrer, qui aurait pu engendrer quelque chose de prodigieux, qui malheureusement a débouché sur l'horreur la plus complète. Il faut quand même le savoir. Belle époque, mais drôle d'époque. Bon. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que cette période-là, effectivement, elle est tout à fait intéressante à interroger, à explorer du point de vue historique. Maintenant, pourquoi un festival Belle Époque à Évian? Parce que si vous regardez un petit peu justement la physionomie générale des grands... Les grands édifices qui font le profil évianais, ben ils font tous partie quasiment de cette période. C'est entre 1895 et 1914. Vous avez les anciens thermes, donc le Palais Lumière, vous avez toutes les villas qu'on vient d'évoquer, vous avez les grands hôtels, l'Hôtel Royal, 1909, l'Hôtel Hermitage, 1908, vous avez le Casino, 1912, 1913, j'ai un doute. Bref, tout se passe à cette période-là, qui effectivement correspond aussi pour la ville thermale qui était Évian à une époque parfaitement florissante, même si ça s'est encore prolongé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on estime que la période la plus florissante pour Évian, c'était surtout les années folles, donc les années 20.
Est-ce qu'on peut parler d'insouciance?
Je ne sais pas. Là-dessus, je serais très prudent. Je pense qu'il y a... On nous donne l'image. Alors, il faut savoir aussi que la formule « Belle Époque » a été inventé sous l'occupation allemande, ça on l'ignore, hein, mais enfin en tout cas on ne le diffuse pas beaucoup, par une radio, Radio Paris, qui était une radio qui était gérée par les Allemands à l'époque, et qui proposait une émission de chansons 1900, donc de chansons nostalgiques, pour remonter le moral, on va dire, des Français et des troupes. Bon. Et dans cette chanson et dans ces émissions, il y avait un refrain tiré d'une comédie musicale dont je vous lis le nom, qui s'appelait, qui disait « Ah, la belle époque », etc., etc. Mais il est vrai que cette formule s'est imposée à partir des années 50. Quand vous regardez encore, au sortir de la guerre, en 1946-47, vous avez un prodigieux documentaire qui a été fait par Nicole Vedresse, qui aujourd'hui est oubliée, qui est une animatrice et traductrice, qui était en fait à l'époque à l'ORTF, si je ne me trompe pas. Elle parle de Paris 1900. On ne parle pas encore de belle époque. La belle époque, c'est effectivement une sorte d'illusion rétrospective. Alors l'insouciance, elle est... dans cette image que l'on donne. Regardez par exemple French Cancan, les films de Renoir. Enfin, en revanche, il y a Renoir, le Renoir de la grande illusion aussi, hein, c'est aussi un autre aspect. Mais donc vous voyez effectivement c'est l'esprit rétro. Et dans le côté rétro, il y a la joie de vivre, il y a effectivement toutes les saveurs liées à, je sais pas, aujourd'hui quand on vous vante un jambon de tradition, en général, il est né autour de 1905. C'est généralement la belle époque. Parce que précisément à cette époque-là, eh bien, il y avait toutes les grandes brasseries, enfin, tout cet imaginaire autour du bien-vivre, etc., qui, bien sûr, était réservé à une certaine couche de la population, pas à tous, parce que là aussi, il fallait voir, bien sûr, les taudis, etc., etc. Donc, dans l'imaginaire, il y a cet aspect-là. Mais moi, ce n'est pas nostalgique. Si vous voulez, moi, la belle époque, pour moi, elle peut être une source d'inspiration, du point de vue, on va dire, architectural ou artistique, ou musical aussi, parce que c'est une période que j'aime beaucoup du point de vue musical, effectivement. Très créatrice.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce festival ?
Bah, c'est un festival qui est pluridisciplinaire, parce qu'on y propose un peu de tout. On y propose à la fois des promenades. Justement, on fait en sorte que les gens se promènent dans Évian pour le voir de manière un peu différente. On leur montre des façades de villas, on leur montre des quartiers qui ne sont pas connus, comme le quartier des Materons. On leur montre des jardins qui ont été oubliés, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect. Il y a du théâtre, il y a des lectures, il y a du cinéma. Alors, on aime bien faire du cinéma muet. J'ai un ami qui est un grand improvisateur et qui fait des choses merveilleuses. Donc, en général, on se prend un grand film classique et puis on le propose au public. Ou on avait par exemple justement diffusé French Cancan de Jean Renoir à la dernière édition. On a également toujours une petite exposition, alors très modeste, mais enfin à travers des photographies, à travers des documents, qui propose un parcours. Là, je pense que cette année, pour l'édition 2020, on aura la question de la musique, parce que Évian est véritablement une ville très musicale. On a au moins une douzaine d'associations musicales, et ça remonte à loin déjà. Vraiment, les traditions musicales sont déjà présentes au XIXe siècle. Donc c'est mettre en perspective le présent, justement, à travers cette histoire. Et puis au-delà de ça, on a également de la danse, puisqu'on organise généralement un bal 1900. On a du chant, de la musique, bien sûr, des concerts. Concerts lyriques, concerts classiques et autres.
Vu comment vous parlez, j'ai envie de venir. Comment je fais ? Me dites pas, je prends la voiture et puis je viens jusqu'à Évian. Non. Mais comment je fais pour découvrir ? Hein ? Quoi ?
Avec le Léman Express, quand on sera au point, tout ira mieux. Donc vous montez à Genève, ensuite vous prenez le train et vous y êtes en. Je crois qu'ils garantissent à peu près une heure de trajet entre Genève et Évian. Non, effectivement. Alors, on le fait donc chaque été. En général, sur le dernier week-end de juillet. Et les deux premiers d'août. Donc cette année, ça va coïncider avec le 24 juillet jusqu'au 9 août. Donc on est sur trois week-ends. Voilà, en gros, c'est ça. Le programme, on le trouve, si vous tapez Évian Belle Époque, en général, vous allez tomber sur la page du site, alors qui n'est pas l'association de la Villa du Châtelet, bien que la Villa du Châtelet héberge souvent des animations, mais qui est une association qui s'appelle Café Europa, et qui donc propose, entre autres, le Festival Belle Époque et aussi pas mal d'autres activités.
Allez, la dernière question, elle est directe, celle-là, vous êtes prêt ?
Bah écoutez, on va jouer le jeu. Hein.
Quelle est la bonne résolution pour 2020 ?
Ah ça, c'est une sacrée question. La bonne résolution pour 2020, bah, c'est de tenir le cap. C'est pas autre chose. Non, je dois dire que 2019 a été une année très exaltante parce que précisément, bah, on a ouvert ce lieu. Et je pense que ce lieu est un lieu, je peux en parler parce qu'il ne m'appartient pas, donc c'est un lieu magique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un lieu moi qui m'épate. Je dis qu'on a une chance inouïe d'être dans cette villa parce que précisément le plus beau compliment que j'ai eu, c'est de la part d'une dame qui nous a visité cet été, qui m'a dit, vous savez, des belles villas on en visite, mais en général il faut toucher à rien, on ne fait que passer et c'est tout. Chez vous on peut s'installer, on peut prendre le temps, on peut savourer, on peut discuter, etc., etc. Et c'est là où je me dis que vraiment ce lieu est un instrument de communication, mais surtout de rencontres et d'échanges formidables. Donc pour 2020, pourvu que ça dure, comme disait Madame Bonaparte.
Merci.